Combattre efficacement. Alors, je vais baisser un peu. Vous savez que au moment où nous avons donné notre vie à Jésus, ben, nous avons déclaré la guerre à qui? À Satan. Voilà. C'est aussi simple. Et nous avons un combat spirituel. Alors ici, pendant cette semaine, nous sommes partis, toute une semaine, on était dans la région de Mulhouse. Et donc, voilà, on a visité, hein, parce que c'est une région que j'aime bien. Et il y avait donc un jour où on s'est dit, on va aller donc voir un lac. Et finalement, c'est un barrage, hein, c'est un barrage. Et on voit pas mal de gens qui marchent, qui visitent, etc. Et nous, on était à deux, et puis on avançait tout doucement, on marchait à notre rythme. Et tout à coup, je vois un couple, qui n'est certainement pas plus jeune que nous, hein, qui nous dépasse et qui marche comme des jeunes, hein, vous savez, comme des jeunes. Et moi, j'ai dit à Christiane, hey, regarde ça. Il n'est pas plus jeune que moi, il marche comme un jeune, et moi, j'arrive pas. J'avançais à mon rythme. Vous connaissez mon passé, mon problème de santé, qui s'améliore, bien sûr. Mais voilà, ça va doucement. Hein, ça, c'est un peu gênant pour moi, parce que j'avance pas assez vite. Et je regarde Christiane, et elle me dit, « Ouais, mais tu sais d'où tu viens un peu de patience, continue, regarde, ça va de mieux en mieux. » Et j'ai regardé à son visage, elle était très encourageante en disant « continue ». Et je me suis calmé, et puis on a continué, et puis le couple... Et finalement, voilà, n'oubliez pas, par cette introduction, n'oubliez pas la pensée, voilà, c'est qu'il fallait continuer, il fallait avoir la patience, il faut persévérer. Ça ne se passe pas comme ça tout de suite. Ensuite, deuxième chose, c'était quand on a décidé d'aller voir le grand ballon de Vosges, grand ballon, ça vous dit quelque chose? Donc, l'école... 1300 mètres carrés, je ne me souviens plus, mais le ballon, grand ballon, ça s'impose dans les Vosges là-bas. Et puis on est arrivé au col, là, et il fallait encore monter en grand ballon, hein, vraiment par un sentier. Y a-t-il quelqu'un qui a visité peut-être déjà ça? Non? Personne? Oui, hein, tu vois ce que je veux dire? Voilà, il faut grimper, hein. Il faut aller. Alors, on est arrivé là, et puis on voit deux chemins, des sentiers là, qui certainement devaient rejoindre là-bas le ballon. On ne savait pas vraiment, on n'a pas bien regardé le plan. Puis je suis arrivé là, et Christian m'a dit, bon, écoute, là, on ne va pas monter. Et moi, je lui ai dit, bah, écoute... on va aller quelques mètres, quelques dizaines de mètres, on va monter pour voir ce que ça va donner. Et puis moi, je monte. Puis je regarde Christiane, elle, comme une jeune. Et moi, je fais mon maximum pour lui montrer que j'arrive quand même, mais j'avais difficulté à avancer, vous comprenez, par ce chemin-là. Puis on a fait peut-être une vingtaine de mètres et... Elle m'a dit, bon, on ne va pas aller plus loin. Bon, écoute, on va quand même faire encore 10 mètres. Elle me regarde, on avance. Bon, maintenant c'est fini, hein, c'est fini. Et je lui ai dit, écoute, si on monte encore un peu, certainement, comme ça tourne à droite, hein, on a monté par côté gauche, certainement, on verra les sommets là-bas. Hein. Et finalement, on est arrivé là, au virage, là, et je lui ai dit, regarde ça, c'est beau. Hein. Oui, mais bon, on va pas aller. J'ai dit, écoute, on va faire encore quelques dizaines de mètres. Et puis, on avance, on a fait encore quelques dizaines de mètres. Et puis après, tout doucement, Christiane, elle se calme. Elle se calme, n'insiste pas. On continue. Et puis peut-être une bonne cinquantaine de mètres avant monter au sommet. Bon, elle m'a dit, bon, maintenant c'est fini. Hein. Tu te rends compte, après, il va falloir descendre. Et si jamais tu tombes, voilà, donc tu risques d'avoir des problèmes. Bon, j'ai dit, écoute, on essaie encore un petit peu. Et puis après, elle a démissionné, elle m'a laissé monter, je suis monté, et elle était tellement contente parce que nous sommes montés tous les deux là-bas. Tout doucement, là. Voilà. On est arrivé là-bas et on était heureux, on a visité. Et puis donc, ensuite, après, c'était... Nous sommes allés à une réunion dans la semaine. Est-ce que c'était entre deux ou après? Voilà. Nous sommes allés donc dans une réunion de semaine, dans la semaine. Et puis il y avait un jeune prédicateur qui prêchait, le responsable de jeunes. C'était une réunion dans la semaine, mais 500 personnes hein, dans la semaine. Et donc, le responsable de jeunes qui prêche, avait une barbe et tout ça, hein, sa prédication était très dynamique, encourageante. Et à plusieurs fois, il dit, ah ben, il faut se battre. Ça ne va pas tomber tout seul. Et il faut faire des efforts. Ah ben, il faut aller, il faut progresser. Il a secoué tout le monde. Donc ça, c'était avant monter, hein. Et donc, j'ai entendu cette prédication. J'ai entendu cette prédication et en montant, je me suis dit, il faut se battre. Donc, je ne me suis battu pas contre Christiane, mais contre sa protection, sa façon de voir les choses. Vous voyez son raisonnement. Je devais me battre avec ça. Et puis plus je montais, j'ai pensé au jeune prédicateur qui prêchait aux forces là, dans cette réunion, juste la veille. Et souvent il dit, il faut se battre, la vie c'est pas toujours facile, il faut aller, il faut avancer, il faut pas reculer. Et je pense que ça a fait beaucoup de bien à tout le monde. Mais en même temps, moi-même j'étais encouragé et j'ai essayé de réfléchir. Vous voyez ce que vous écoutez? Parce qu'il faut voir il faut regarder la nature. Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre, par une montagne, par un combat, par pas mal de choses. Dieu nous parle. Et ça m'a donc aidé de se battre. Et finalement, je suis monté sur cette montagne et j'étais tellement heureux. Alors, mes amis, notre combat est un combat spirituel. Je vous ai juste donné cette illustration. Essayez une fois faire ce que j'ai fait, grimper là-bas. Même si vous êtes jeune, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut se battre. D'accord? Mais dans la vie spirituelle, ça ne tombe pas tout seul. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et Éphésiens, chapitre 16, verset 11, nous confirme, bon, il y a plusieurs, beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu où les hommes de Dieu étaient engagés dans le combat, Jésus était engagé dans le combat. Regardez ce que Paul dit en Éphésiens, chapitre 6. Revêtez-vous de l'arme de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Déjà, vous êtes dans une église, enfin, l'église c'est vous et moi, ce n'est pas le bâtiment. Hein. On est dans une réunion chrétienne, et puis vous vous rendez compte, on parle des armes. Allô? Et puis pourtant, ben, on est chrétien, on est tous gentils, on est tous bons, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de haine, il faut aimer son prochain mais aussi son ennemi. Et là, vous lisez la parole de Dieu, et la parole de Dieu nous parle de quoi? De l'arme. L'arme. Revêtez-vous de l'arme, mais c'est une arme de Dieu. On est bien d'accord? C'est une arme de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang. Hein, on est bien d'accord? On n'a pas le combat entre nous, ce n'est pas le combat physique, d'accord? Mais contre puissance, contre les autorités et contre le pouvoir de ce monde de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure, l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister au mauvais jour et tenir jusqu'au bout, après avoir fait tout ce qui était possible. Alors, retenez de ce texte quelques expressions fortes, parce que on ne retient jamais 100%, mais au moins une pensée forte. Ici, Paul nous parle des armes de Dieu. Revêtez-vous des armes de Dieu, les armes de Dieu. Il nous parle aussi de la fermeté, hein, pouvoir tenir ferme, de la fermeté. Hein, il nous parle d'être ferme, décidé, déterminé. D'accord? Un chrétien doit être déterminé, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait quel est son but, mais nous avons les combats. Satan se déchaîne contre nous. Donc, quand les obstacles arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être ferme. J'ai décidé, j'ai une promesse, je sais où je dois aller. Ah ben, il ne faut pas s'arrêter. Même quelquefois, c'est difficile, mais il faut avancer. Donc, cette expression, âme de Dieu, fermeté, et ensuite, ruse du diable. Ah, il est rusé, lui. Il nous attaque, il tourne autour de nous comme un lion rugissant. Il nous attaque dans nos pensées. Et il nous attaque dans nos actes, dans nos intentions. Voilà, c'est son objectif, c'est de nous empêcher d'aller plus loin, de nous détruire complètement et de nous attirer vers le bas, c'est-à-dire à l'enfer. Le jeune prédicateur disait, vous savez, celui à Mulhouse, hein, celui qui disait... Il faut se battre, Antonia, il faut se battre. Si tu étais là, c'est comme si qu'ils te disaient, Antonia, il faut se battre, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Il donnait des exemples. Donc, fermeté, ruse du diable, résistance. Aussi, hein? Résister. Quand les attaques diaboliques se présentent devant nous, peu importe si vous vous trouvez à Lille ou dans un autre endroit, peu importe si vous êtes en avion, dans une voiture, l'ennemi nous attaque partout. On est bien d'accord? Donc, il faut faire quoi? Il faut... résister. Quelqu'un qui n'est pas attaqué, ce n'est pas vrai, ce n'est pas biblique. On est tous attaqués, nous avons tous nos combats. Mais ce qu'il faut savoir faire, c'est résister. Quand Christian elle m'a dit, non, pas plus loin, pas plus loin. Mais après, je lui ai dit, mais pourquoi tu me protèges comme ça? Pourquoi tu me couvres comme ça? Je ne suis pas un gamin. Mais je me dis, et si jamais il y a quelque chose qui t'arrive, c'est juste, ça fait 4 mois après tes opérations, ben qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire là? Et moi, j'étais déterminé. J'ai résisté contre sa belle parole, bonne parole. C'est ma femme qui parle, elle m'aime beaucoup, elle s'inquiète beaucoup pour moi. Tout est positif. Vous comprenez ce que j'ai? Mais moi, je devais résister. J'ai résisté. Et puis tout à coup, on va faire encore 10 mètres. Je continue, je suis ferme et j'y résiste. Une illustration. Hein? Mais dans la vie spirituelle, la même chose. Fermeté, être ferme dans nos épreuves, dans nos difficultés, et résister contre les attaques diaboliques. Je vais vous montrer juste une belle histoire où vous allez voir qu'il y avait des gens qui savaient combattre les obstacles. Les obstacles. Ils savaient faire des beaux combats. L'évangile de Marc, chapitre 2, c'est une histoire que vous connaissez très bien. Mais on va juste retirer une pensée, un enseignement de ce texte. L'évangile de Marc, chapitre 2, le premier verset, donc les premiers 5 versets. Quelques jours plus tard, est-ce que tu peux lire, Alexis, parce que je vois que tu t'endormes. Je sais que c'était fatigant pour toi, tu as travaillé beaucoup. Tu as fait des déménagements hier. C'est lui qui devait prêcher ce matin.
Annoncer le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et par cette couverture firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé: « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Et puis après, on va faire encore. Bon, allez, lis jusqu'au verset 11, si tu peux passer.
« Alors il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. »
Voilà, donc il y avait une discussion avec des gens qui étaient là, entre deux, et puis après, parce qu'il y en a qui n'acceptaient pas que Jésus pouvait se permettre de dire « Tes péchés sont pardonnés. » Mais Jésus est venu pour ça, d'accord? Mais là, il était question de guérison. Donc, plus tard, il dit, alors, il déclara au paralytique ou paralysé, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. T'es guéri, c'est réglé, c'est formidable, résultat est remarquable. Mais essayez d'analyser un peu ce texte, cette belle histoire. Donc, il y avait Jésus qui parcourait le schéma, les villes, les villages, etc. Il prêchait l'évangile partout. Et là, il y avait donc un moment où Jésus, quand Jésus prêchait l'évangile, ça veut dire prêcher le salut, l'espoir, l'espérance, l'avenir. Vous êtes bien d'accord? Les promesses. La délivrance, la libération, ça a été dit aujourd'hui, Dieu est grand. Jésus prêchait, autour de lui, et autour de lui, il y avait quoi? Il y avait la foule, il y avait des gens. Il s'est retrouvé dans une maison, il y avait tellement de monde. Il y avait des jeunes, il y avait des Marie, il y avait d'Alexis, il y avait de Brigitte, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait Jason, il y avait... Bon, je ne sais pas. Essayez d'analyser tout ça. Il y avait tous ces gens-là. Jésus s'est trouvé dans une maison. Il y avait les gens, plein. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il y avait une soif. Les gens voulaient savoir ce qui s'est passé autour de Jésus. Ils voulaient savoir ce qui s'est passé quand il parlait, etc. Et il y avait quatre personnes. Ah, moi j'aime ça. Le fait qu'il y avait une foule, je suis content pour eux, mais ils ont pu écouter. Mais j'étais content, je suis content pour ces quatre personnes. Et je me suis dit, j'essaye de réfléchir, de réfléchir, de réfléchir. Ben, tous les autres, prenez. Ils étaient gavés par des bonnes nouvelles, par une bonne parole. Ah, Jésus parlait à tous ces gens. Mais hors de cette foule, il y avait quoi? Il y avait un homme paralytique, malheureux, malade. Et je vois ces quatre personnes, j'essaye de le voir. Hein. Il y en a qui étaient gros, il y en a qui étaient il y en a qui étaient maigres, il y en a qui étaient petits, et puis l'autre était un peu voilà, solide. J'essaye de d'imaginer, hein, c'est ça. Hein. Voilà, ces quatre personnes, ils voient cet homme malade. Et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est bien, les gens se déplacent, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde écoute. Hein, les derniers, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et cet homme paralytique ne pouvait pas s'approcher de Jésus. On est bien d'accord? Il ne pouvait. Et il y avait les quatre personnes là. Et ils se sont consultés. Ils ont déterminé un objectif. Il faut qu'on aille voir Jésus. Il faut qu'on s'approche de Jésus. Peu importe ce qui se passe, on va pénétrer jusqu'à la personne de Jésus. Ah, ils étaient déterminés. Hein. Si j'étais là moi, à cette époque-là, je les aurais aidés. J'aurais été cinquième. Ah, vraiment. J'aime bien ces quatre personnes. Dommage qu'il n'y a pas leur prénom, parce que dans l'éternité, j'aurais été le voir pour leur dire « Ah, c'est bien, vous étiez courageux, c'est bien. C'est bien. C'est formidable. » Et voilà, ils ont un objectif. C'était aller le présenter. Devant qui? Devant Jésus. Parce qu'il est le schéma, la vie, la vérité. C'est lui qui peut guérir, c'est lui qui peut délivrer, c'est lui qui peut sauver. Ces gens ont compris. Certainement, ils avaient la notion de l'évangile, ils ont entendu, ils ont écouté, certainement. Et ils ont pensé à cet homme-là qui était malade pour dire, on va l'aider. On va tout faire pour pénétrer donc, dans cette maison, pour pouvoir le présenter devant Jésus. Certainement, Jésus va faire quelque chose pour lui. Vous voyez, c'est une belle histoire que nous connaissons très bien. Et puis donc, voilà l'obstacle. On n'arrive pas. Il est à la foule. Il y a beaucoup de monde. Pardon, monsieur, pardon, madame, grand-père, jeune, vieux, moi jeune, peu importe, il y avait tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous laisser passer là? Ah non, non, bah nous, pour nous c'est difficile, hein, les dernières personnes là, autour, c'était déjà pas facile pour eux, pour elles. Et puis là, on ne pouvait pas passer. L'obstacle. Voilà l'obstacle. Les circonstances nous montrent que c'est impossible d'accéder dans la présence de Jésus. C'était impossible. La foule était là. C'était impossible. Quatre personnes plus cinquième, hein, qui étaient malades, qui étaient portées par les quatre personnes. C'était impossible de pénétrer. Voilà l'obstacle. Voilà le combat. Alors là, il fallait se battre. Là, il y avait un beau combat. Il y avait un objectif, d'accord? Il fallait atteindre l'objectif. Mais pour arriver Au but, il y avait quelque chose à faire. Ça ne tombait pas tout seul comme ça. Hein. Et pourtant, Dieu aurait pu faire, hein, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Dieu aurait pu dire, « Oh, ben voilà, je les prends comme ça, je les déplace et je les dépose devant Jésus. C'est réglé, il est guéri. » Mais Dieu est un Dieu des miracles. Dieu peut tout faire. On est d'accord ou non? Dieu pouvait souffler. Et ce malade-là, il aurait pu être déplacé, posé devant la personne de Jésus. Mais Dieu est grand, puissant. Dieu aurait pu dire, très bien, tu es malade, tu as la foi, tu veux être guéri, ben je t'ai guéri. Sans aller dans la maison devant Jésus. Mais Dieu est tout puissant, omniprésent. Amen, il aurait pu faire. Mais Dieu a toujours décidé. Il a décidé au début de ne rien faire tout seul, mais travailler avec l'homme. Dieu travaille avec nous. Il y a ma part. Madame, monsieur, il y a aussi votre part. Et ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. D'accord? C'était comme ça. Et puis ces quatre personnes ont bien compris que ben, nous, on doit faire notre part, nous, on ne peut pas guérir. Ils ont peut-être essayé, ils n'ont pas réussi. Ils ont peut-être essayé, hein. Ils ont peut-être prié pour lui. Ça n'a pas marché. Mais ils avaient à cœur que cet homme soit guéri. Donc, ils se sont mobilisés. Ils ont dit, nous, on va les déposer devant Jésus, malgré l'obstacle, et Jésus va les guérir. Il fallait faire un événement important, un exploit finalement, un exploit, déposer le malade devant Jésus, et Jésus va guérir. Et ensemble, ça fait un travail ensemble, en collaboration. Nous faisons notre part, on est bien d'accord? Nous faisons notre part, j'ai fait ce que je peux faire. Et puis ensuite, parce que j'ai fait ce que je devais faire, ah ben Dieu, il a fait le reste. C'est-à-dire, ben Jésus a accordé une guérison, enfin, plus qu'une guérison physique. Parce que vous avez entendu, je te pardonne tes péchés, parce qu'il avait le pouvoir, mais les hommes n'ont aucun pouvoir, enfin, les hommes n'ont pas le pouvoir de pardonner les péchés, c'est impossible. Il n'y a que Jésus qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est l'essentiel, c'est le miracle plus important qui peut exister dans notre vie. Quand on est pardonné parce qu'on était condamné à la mort éternelle, et tout à coup en acceptant Jésus, nous sommes pardonnés, graciés de la mort, et nous avons la certitude pour la vie éternelle, ça c'est un miracle plus puissant, plus grand miracle qui peut exister dans notre vie. Amen. Alors votre conversion est tellement importante, c'est tellement important. Donc, la dernière chose dans cette belle histoire, il faut déposer le malade devant Jésus. D'accord. La foule est là, c'est impossible, et vous avez compris qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez projeter encore ce verset-là quand on parle justement pour repasser ces paroles-là qui puissent être gravées dans nos cœurs. Mais ils ne purent pas les transporter jusqu'à Jésus. Impossible, à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur les toits. Sur les toits. Ils montèrent sur les toits aux terrasses. Défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus. Et voilà, ils l'ont descendu devant Jésus. Servir Dieu différemment. Je me souviens, j'avais des moments où, cet homme venait m'attaquer pendant ce moment d'hospitalisation, etc. Voilà, il y a cet homme qui venait, qui voulait me dire, c'est fini pour toi, ça s'arrête là, tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. Et moi, je savais que Dieu était au-dessus de tout ça. Quand j'ai dit juste un mot à Satan, une fois, il s'est présenté devant moi comme un ours. Il m'a regardé, il était prêt à me détruire complètement. Il avait une puissance. Et je lui ai dit, tout simplement, au nom de Jésus, tu dégages. Il est parti comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prière. J'étais porté par la prière. Vous avez prié pour moi, et d'autres personnes dans le monde priaient pour moi. Et ça, c'est vraiment la puissance de Dieu. Et regardez ce qui se passe là. On casse le protocole normal. Le rendez-vous à 5 heures, vous allez avoir le rendez-vous avec telle ou telle personne. Ça, c'est le protocole sur cette terre. Quelquefois, il y a des besoins. On téléphone chez quelqu'un, on téléphone même chez un pasteur, quelquefois. Puis on ouvre l'agenda. Et puis on dit, ah ben là je suis occupé, là je suis occupé, là je suis occupé. C'est comme ça que ça se passe dans les entreprises. Hein. C'est comme ça que ça se passe avec la médecine. Partout, il y avait des rendez-vous, où j'avais des rendez-vous. Voilà. Ah ben là, j'ai un rendez-vous là. Et vous n'avez pas de choix, vous venez ou vous ne venez pas, tant pis pour vous. C'est le schéma classique, le schéma, le protocole. Pour entrer là-dedans, ben, il faut suivre. Ils font ce qu'ils veulent avec vous. Et là, on a cassé le protocole classique. Au lieu d'attendre ou se tourner vers Jésus, enfin vers la secrétaire de Jésus, je ne sais pas s'il y en avait, pour lui dire, ben, est-ce que tu peux trouver un rendez-vous avec Jésus? On aimerait vraiment le voir parce qu'on a un besoin important. Rien tout ça. Qu'est-ce qu'on fait? On casse le protocole normal, classique, traditionnel, religieux. On monte sur les toits. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui se passe? On fait un trou, on fait une fenêtre, un passage, et puis il y a Christiane qui était là-bas à cette époque-là, et puis il y a la poussière qui tombe sur elle, et puis elle regarde, elle recule. On descend un malade devant Jésus. Et essayez d'imaginer tout ça. Comment ça s'est passé? Et tout à coup, voilà, l'objectif est atteint. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce que les gens vont dire, il y avait la vie au Jésus, il y avait la guérison en lui, peu importe le chemin par lequel nous allons atteindre la personne de Jésus, ils ont réfléchi, ils savaient que s'ils vont déposer le malade, alors le malade sera guéri, et au moment où il se trouve devant Jésus, il y a deux grands miracles. Le premier miracle, on a déjà vu, je te pardonne tes péchés. Voilà, le salut. Il entrait dans son cœur, dans sa vie. Il a reçu le pardon de ses péchés. Il était gracié parce qu'il était condamné à la mort éternelle. Et en plus, il lui dit, lève-toi et marche, c'est ça, hein, non? Lève-toi, prends ton brancard. Oh là là, c'est fort, hein? Ah ben, mes amis, dans notre vie, Donc, vous avez compris que, finalement, s'il y avait la guérison, c'est parce que Jésus a dit, Jésus voyait la foi, jouer un rôle capital dans cette guérison, parce que vous avez cru, vous croyez que je peux le guérir, vous avez les résultats. Je lui pardonne ses péchés et en plus, je l'ai guéri. Vous voyez le courage et en même temps la responsabilité qu'ils avaient ces gens, ces quatre personnes. Imaginez-vous si ces quatre personnes avaient arrêté leur démarche juste avant la foule. Il n'y aurait pas eu le pardon des péchés et la guérison. Il n'y a pas longtemps, avec Christian, nous sommes allés à Lens dans un magasin. On n'allait jamais, on ne savait pas. C'était pour la première fois, mais bon, on avait un objectif. Puis on allait dans le magasin, c'était le roi Merlin, c'est mon copain, souvent. Voilà, après, en sortant, on sort, et puis quelqu'un nous dit « Bonjour !» Et puis on reconnaît la dame qui est venue à plusieurs reprises ici, au culte, plusieurs reprises. Hein. Elle est venue ici, son mari, il était opposé, je pense. Et puis cette dame, elle s'est arrêtée. Au lieu de persévérer, résister, elle s'est arrêtée, et puis voilà, le mari n'est pas pour, on reste à la maison, et puis voilà, la vie passe, et on vit sans Dieu. Et tout à coup, on entre là, et cette dame, « Ah, bonjour Christian et Antoine !» Elle nous regarde comme ça, et nous, « Ah, c'est toi, bonjour !» Christian, elle a même, se souvenait du prénom de la dame, et son mari. Oh là là, à qui elle dit bonjour? Bonjour Antoine. Mais il y avait aussi Christian. Il était comme ça. Et bonjour. Bonjour monsieur, vous allez bien? Je voulais les un peu déconstiper. Hein. Excusez-moi. Un petit sourire, il me regarde. Vous allez bien, ça va? Ah, on connaît votre dame. Hein? Et puis, on connaît encore quelqu'un. Et puis, comme ça, c'était comme ça, ça tombait comme ça. Et moi, la première chose, mais Seigneur, c'est un rendez-vous divin. Dis, donne-moi une parole. Une, mais forte, pour que je puisse faire quelque chose. La première chose, c'est ça. Vous comprenez? L'obstacle, c'est qu'il était figé, je ne le connais pas. Dire bonjour et partir, c'est bien, mais il faut communiquer quelque chose, deux, trois mots. Et puis, on a juste échangé quelques mots parce qu'il était bloqué. Et sa femme, elle était contente, souriante. Et puis ensuite, on découvre, parce que nous connaissons la famille de ces personnes qui sont engagées dans l'œuvre de Dieu, dans la responsabilité, dans une église. Et on se téléphone avec ces gens-là, et puis j'ai dit, écoute, voilà, nous avons rencontré ton frère et ta belle-sœur. Ah oui, on est au courant, hein, on est au courant. Alors, ça fait que ça parle dans toute la famille parce que sa femme, la femme de ce monsieur, elle lui a dit, c'est Antoine, le pasteur de l'île, du phare. Et ça a bouleversé le gars. Antoine, il est un homme comme tout le monde. Hein. Il est avec une femme, souriant. Hein. Il est pas... un homme, quoi, normal, quoi. Il était touché. Et pas deux, trois mots que je lui ai dit, que nous lui avons dit, il était touché. Et ça parle dans la famille. Pourquoi je vous raconte ça? C'est juste pour vous dire que nous avons une responsabilité. J'ai parlé avec Christiane et je lui ai dit, mais tu te rends compte? Ces gens, hein, la famille, ces gens nous disent, mais Antoine, on a entendu, on est content parce que vous, ils nous disent, vous portez quelque chose en vous. Vous avez quelque chose d'exceptionnel. Vous parlez avec des gens et en même temps, vous communiquez quelque chose. Et j'ai regardé après cette conversation, j'ai parlé à Christiane et je lui ai dit, mais tu te rends compte, nous les chrétiens, nous avons une responsabilité. Vous pouvez rencontrer quelqu'un puis vous communiquer la vie, l'espoir. Vous allez montrer votre visage rayonnant, qui est rayonnant, et les gens sont touchés. Les gens sont touchés. Allô? Alors, nous avons une responsabilité. Autour de nous, il y a la vie ou la mort. Toi et moi, Dieu nous a appelés à communiquer la vie, mais il y a des obstacles. Vous avez vu le cas de personnes. Comment ils ont obtenu la victoire pour un malade et de la même façon, nous, dans notre vie personnelle, nous avons aussi nos combats. Quelquefois, la fatigue est... moi, depuis mon opération, je ne suis toujours pas à 100%. Alors, j'ai râle, je ne suis pas content. Je demande à un médecin, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Je ne suis pas comme avant. Donc, automatiquement, vous comprenez, on est travaillé, on est attaqué. Il y a l'ennemi, une fois de plus, qui vient pour me dire... Bah, tu vois, maintenant, c'est le moment d'arrêter. Tu ne vas pas te décarcasser pour les autres. Et de l'autre côté, vous entendez un message. Bats-toi, continue, tu as une responsabilité. Tu dois communiquer encore la vie aux autres. Et les autres vont communiquer la vie aux autres. Et les autres vont communiquer encore la vie aux autres. Et ça se multiplie. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ça. Alors, nous avons notre combat avec la fatigue, quelquefois. Le découragement, parce qu'il y a eu des choses, voilà, un peu négatives autour de nous, on se décourage très vite, très vite. Et avec nos raisonnements, hein, le raisonnement, parce qu'on peut discuter, on peut parler, mais pourquoi le Seigneur, tu me demandes de monter sur le toit? Combien il y a des choses qui nous interpellent, on est tellement... comment je vais dire, formaté par la civilisation, par la science, par l'éducation. On est tellement formaté qu'on a l'impression que Dieu peut passer juste au travers de notre formation. Mais quelquefois, il nous demande de monter sur le toit, casser les protocoles. Et quand les miracles se réalisent, ben on n'a rien à dire. On n'a rien à dire. Il était handicapé, là il est vivant, il est guéri, il est libéré, quelle belle chose. Donc vous voyez, on a notre combat avec les raisonnements, avec aussi l'indifférence. Combien, quelquefois, on est indifférent. Le fait que chez le voisin, ça se tape là-bas, il y a la violence et tout ça, on est indifférent, puis on dit, ah ben, qui se casse la figure, c'est pas notre problème. Vous comprenez? Il y a tout ça, l'indifférence. Mais il faut casser l'indifférence, c'est notre combat, c'est mon combat. Et je dois regarder les quatre personnes qui ont dit, on va faire quelque chose. Ça ne va pas tomber tout seul. Amen? Donc, le raisonnement, l'indifférence. Et on ne s'arrête pas, on continue. Nous sommes allés chez des amis avec Christiane il n'y a pas longtemps. C'est des braves gens, c'est des gens que nous aimons. Et puis on nous a posé la question concernant nos enfants. Et puis on a dit, on a aussi un Alexis hein, qui nous a fait quelques soucis. Mais maintenant il marche droit. Le résultat, c'est ça, hein, le résultat final. Nous avons nos enfants. Et puis, et vous, ça va? Vous avez combien d'enfants? Bon, quatre enfants. Ah, ben, c'est bien. Et puis, bon, ils sont tous engagés dans la foi, etc. Ah, et là, c'était difficile à ouvrir la bouche pour nous raconter que finalement, sur quatre, il y en avait trois qui ne servaient pas Dieu. Et dans mon cœur, tabouillon. Mais ce sont des amis. C'est un prédicateur. Mais je ne peux pas rester insensible. J'ai essayé de comprendre la situation. Et maintenant, je suis là avec. Je me réveille et je dis, Christian, je ne vais pas vous citer le nom, hein, parce que vous le connaissez. Ce n'est pas quelqu'un de l'Église, mais voilà, je ne préfère pas. Je lui ai dit, ah, je porte un fardeau pour ce prédicateur, pour mon ami. Je porte un fardeau. Je veux me battre pour les enfants, pour ses enfants. Le jeune prédicateur dans cette réunion disait, il faut se battre, il ne faut pas lâcher, il faut continuer. Je répète ça parce que j'étais encouragé par ça, la prédication de ce jeune prédicateur. Et voilà mon défi. On va prier pour Seigneur, je dois, il y a l'obstacle, il y a la foule, mais là, ce n'est pas la foule, mais il y a d'autres obstacles. Comment faire pour atteindre la famille, pour pouvoir les sauver? Ramener à Jésus. Allô? Ah! Bon, Antonia, il n'y avait pas assez. Tu ne m'as pas assez soutenu. C'est juste un enfant. Allez, fais un peu. C'est le cœur, hein? C'est la conviction. Encore une fois. C'est la sainte rage contre l'ennemi, contre les obstacles. Alors, mes amis, menons un combat efficace comme ces quatre personnes. Avec Dieu. Mais la foi jouait un rôle capital dans cette histoire. Puis nous aussi, notre foi est nourrie par la parole de Dieu. Et nous avons la puissance, le Saint-Esprit qui confirme la parole que nous annonçons par la foi. Parce que s'il y a le miracle, c'est qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il nous accorde sa puissance et nous pouvons vivre le miracle. Alors, ma conclusion, c'est que dimanche prochain, nous avons une grande fête. Donc, il y aura le groupe d'Arras qui vient. Il y aura donc l'église de Waterloo aussi. Les trois lieux de culte se réunissent dimanche prochain ensemble. Six baptêmes, six jeunes qui vont témoigner. Alors, le trois baptêmes, c'est Mbouchi. Elle est là. Voilà aujourd'hui. Il y a Franck, ils ne sont pas là. Et Eva. Voilà, c'est les vacances, mais bon, on est au contact, etc. Et il y en a plus jeunes enfants de George Land. Ça vous dit quelque chose? C'est lui qui sera donc le futur pasteur de Waterloo. Ils viennent en famille, ils ont cinq enfants, les deux premiers sont baptisés. Et les trois, là, ils étaient travaillés quand ils sont venus ici pour Bouchetaville à l'époque, là, et ça les a retournés en même temps. Donc, il y aura trois et trois, six baptêmes dimanche prochain. Et il y a, d'après la conversation que j'ai eue avec Alexis, Alors moi, encore, quatre ou cinq personnes qui se préparent déjà pour le baptême. C'est ça? Bon, déjà Noémie, qui était candidate au baptême dimanche ici, mais elle avait à cœur que plutôt attendre pour que la fille, la famille, voilà, elle fait déjà comme ces quatre personnes-là. Elle ne pense pas seulement à elle, mais elle s'est dit, là, ils ne peuvent pas venir, c'est encore c'est peut-être les vacances, la question des vacances. On va faire plus tard pour que la famille puisse être là. Mais dimanche, mes amis, nous avons le service des baptêmes, il y aura du monde, la salle sera remplie là. Alors, le défi, c'est, Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un avec qui je peux venir dimanche prochain. Il y a aussi le barbecue, voilà, quel défi. Vous savez, il y a quelques années, quand on a démarré le barbecue, donc, il y a quelqu'un qui s'est converti, il s'appelait Jean-Paul. C'était il y a 10 ans déjà, 10 ans. Tout au début, avec Steve. Quelqu'un nous a donné de l'argent pour acheter le matériel pour le chauffage. Et après, il fallait trouver quelqu'un qui nous installe. On est bien d'accord. Vous ne voyez pas grand-chose, mais le travail est énorme là, pour installer le chauffage. Jean-Paul s'est converti, il est venu ici et il m'a dit, Antoine, j'installe le chauffage. Et après, Jean-Paul est disparu. Le chauffage fonctionne, tout va bien. Puis moi, je lui ai dit, Seigneur, ah, on parlait même déjà de baptême et tout. Tout à coup, c'était l'année après, il y avait le barbecue. Je parlais avec quelqu'un et quelqu'un par derrière vient vers moi. Il me tape sur mon épaule. Je tourne la tête. Ah, c'est Jean-Paul! Salut Antoine! Oh, je suis content. Qu'est-ce que je suis content de revoir, Jean-Paul. Et j'ai beaucoup de reconnaissance envers toi, parce que tout ce que tu as fait pour nous, pour notre assemblée, c'est énorme. J'ai envie de te dire merci encore une fois de plus. Vous voyez? Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, ben voilà, j'ai trouvé un travail dans les Alpes, là-bas, dans une ville. J'ai travaillé. Je fais partie d'une église, je me suis fait baptiser là-bas et j'ai continué ma foi. C'est beau ça, hein? C'est formidable. Alors, une semaine de combat, la prière, l'engagement et dimanche, on sera là pour une fête. Alors, venez avec quelqu'un. Si vous n'arrivez pas à inviter quelqu'un, ben, ça sera pour la prochaine fois. Mais vous priez dans le sens, Seigneur, si ce n'est pas moi, je serai content si c'est quelqu'un d'autre qui vient avec quelqu'un. Vous comprenez, c'est nous. S'il y a une personne dimanche prochain ici pour la première fois, c'est nous, parce qu'on est là. Il ne faut pas se culpabiliser, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Bon, Antonia, un peu plus fort. Voilà, on se mobilise, on prie. Et voilà, notre combat, c'est comme le cas de personne. On doit présenter le malade devant Jésus. Et moi, je vais venir avec quelqu'un dimanche prochain, ou sinon, bah, que tu te sers de quelqu'un d'autre pour que nous puissions avoir quelques personnes. Joanne m'a dit, bon Antoine, il faut prier. Hein. Bon, ça va, on prie toujours. Hein. J'ai invité quelques personnes. C'est fort, hein? Alors moi j'ai dit, ah ben même s'il y a une personne qui vient, c'est déjà beaucoup, parce que vous voyez que ce n'est pas facile. Hein. Nous, on n'était pas facile, non? Vous étiez facile, vous? Chanel, terrible, c'était terrible avec elle. Hein. Pas comment Dieu a fait avec elle. Hein. Et il a réussi, donc il réussira avec d'autres. On est d'accord? Seigneur, ah ben, conduis quelqu'un vers une personne, que ce soit pendant la semaine d'évangélisation, les amis, etc. Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un. Accorde-moi un rendez-vous divin. Alors, si vous êtes à Paris, vous, hein, ah bon, pendant la semaine, vous allez vers quelqu'un, d'accord? Et dimanche prochain, vous allez être au culte à Paris, c'est ça? Ah ben, vous venez avec quelqu'un. Parce que le royaume de Dieu n'a pas les limites. Nous sommes tous Paris, Lille, peu importe. Hein? Nous sommes tous la famille de Dieu. Et lui, il veut collaborer avec nous. Et nous sommes là pour communiquer la vie. Regardez ce monsieur là-bas. Il s'appelle Frédéric. Là-bas, là-bas. Lève ta main. Alors lui, il s'est fait baptiser. Enfin, il a donné sa vie à Jésus à peu près 20 ans. Il y a 20 ans. 18. Bon, on ne va pas se disputer pour là, non. 30 ans. Non, quand même. Hein. T'es pas... Bon, donc ça fait 20 ans. Tu t'es trompé de 10 ans. Hein. 27 ans, t'as 42, voilà. Il a donné sa vie à Jésus. Une conversion remarquable, je me souviens. Quelques années après, on ne voit plus Frédéric. Et ici, il n'y a pas longtemps, Frédéric revient. C'est ça. Hein? Et là, encore ce matin, il m'a dit, voilà, ça va être dur. Hein? C'est ça, hein? C'est dur. C'est pas facile. Hein? Parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Satan a fait beaucoup de dégâts déjà dans sa vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais Dieu l'appelle à nouveau. Reviens. Reviens à la source. Reviens. Et ça, c'est remarquable. Moi, quand je parle de ça, je suis tellement heureux parce que même un boucher à la face, j'ai juste parlé à 5 minutes d'elle et elle rentre. Rendez compte des choses qui bougent. Je proclame une parole, elle est là. Donc, on va la baptiser aussi dimanche prochain. Quel miracle! Des belles choses. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble. Seigneur Jésus, donc prions pour ce dimanche prochain. Hein. Déjà pendant la semaine, pour la semaine, pour cette évangélisation, prions ensemble. Lève la voix ensemble devant le Seigneur. Cassez le protocole normal, classique, religieux. Faites quelque chose que Dieu vous demande d'une façon extraordinaire par le Saint-Esprit. On est trop habitué à les raisonnements, les habitudes. On est formaté d'une certaine façon. Cassons tout ça pour que Dieu puisse se manifester, pour qu'on puisse même monter sur les toits et puis faire un trou dans le toit pour ramener un malade pour qu'il soit guéri, sauvé, pardonné de leurs péchés. Continuez à prier. On était dans une église et les jeunes prédicateurs qui ont encouragé. Ah ben j'avais l'impression que j'étais juste au bord de la mer. Et puis ça chauffait, ça priait. Alléluia. Parce que on sait que par la puissance de la prière, ça peut bouger, changer. On peut changer les circonstances si la foi est là. Oh merci Jésus. Oh merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Tu m'as libéré, Seigneur. Qu'est-ce que je suis heureux. Heureuse, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, pour que tu puisses te servir de moi, de nous, Seigneur, pendant cette semaine et dimanche prochain. Seigneur, nous voulons plusieurs personnes ici. Nous voulons, Seigneur, que les personnes soient touchées par les témoignages de ceux si jeunes qui vont témoigner. Seigneur, et puis qu'il y ait des gens, des personnes qui puissent s'approcher des vents pour donner leur vie à toi, Jésus. Alléluia. Vous pensez que vous...